Monsieur, bonsoir. Je vais procéder à l'appel pour le conseil municipal. Monsieur Ayosa Fabrice. Madame Amaya Irios Estelle.
Présent.
Madame Bonifaci Sylvie.
Présent.
Monsieur Rouc Philippe.
Présent.
Madame Caligari Virginie aura un léger retard. Monsieur Carpentras Henri.
Présent.
Madame Côté Soto Sophie.
Présent.
Monsieur Defès Jean-Marc absent, donne pouvoir à Madame Aline Soleillac. Oui, c'est bon. Madame Fraisse Alexandrine absente, donne pouvoir à Madame Estelle Amaya Irios. Monsieur Grappin Jean-Louis.
Présent.
Monsieur Garinos Jean-Marc.
Présent.
Madame Amère Laurence.
Présent.
Madame Hermitan Tamara.
Présent.
Madame Carbrat Isabelle.
Présent.
Monsieur Lambertin Jean-Pierre.
Présent.
Monsieur Miséréré Gérard absent, donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lambertin. Monsieur Morel Stéphane.
Présent.
Monsieur Paré Franck.
Présent.
Monsieur Robin Christophe.
Présent.
Monsieur Sardo Nicolas. En retard, donne pouvoir à Madame Amère Laurence. Madame Sauvade Sandrine.
Présente.
Madame Sauvadon Césarine.
Présent.
Madame Zbati Samira. Absente, donne pouvoir à Monsieur Grappin Jean-Louis. Madame Soleillac Aline.
Présent.
Madame Souveton Anne-Marie.
Présent.
Madame Sandrini Mercedes, absente, dans le pouvoir à Madame Conté Soto, Sophie. Élection du secrétaire de séance. Je propose Madame Sophie Conté Soto. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Approbation du procès verbal de la séance du 8 juillet 2021. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Grappin.
Je voudrais revenir sur la question numéro 11, ou la question du volet ramassage des encombrants notamment, et revenir parce que un certain nombre de questions qui ont pu être posées n'ont pas été traitées par le conseil municipal, et on a pu mesurer que vous aviez décidé d'y apporter des réponses sur d'autres supports, notamment votre tribune de la majorité dans le dernier bulletin municipal. On a un petit peu l'habitude, fois, quand vous avez fait supporter la faute à l'équipe municipale précédente, une nouvelle fois, sans doute en oubliant que certains d'entre vous et non de moi faisaient partie de cette équipe, mais chacun est un petit peu habitué. Dans cette tribune-là, vous avez évoqué directement le transfert de la compétence au travers de la pleine commission locale d'évaluation des charges transférées. S'agissant de ces aspects financiers, monsieur le maire, je vous renvoie à une délibération de la CLEC à la séance du 11 janvier 2017, où il était question de valider les aspects financiers liés à ces transferts de la compétence pour le ménageur. Il y avait les autres compétences, donc il ne concernait pas la commune. Savez-vous, M. Fogère, qui était le représentant de la commune de la Palue ce jour-là? Vous et moi. Et ce jour-là, je crois que vous n'avez rien eu à redire sur les aspects financiers. Alors, vous allez me dire, et je vous rendrai rien, je vous ai fait confiance. Vous me permettrez de vous renvoyer une petite partie des commentaires acerbes que vous avez pu faire sur savoir qui a fait ou qui n'a pas fait le travail. Pour revenir sur cette séance du 8 juillet, ce qui est élaboré dans le. Qui fait l'objet de nos échanges, on avait pu aborder les aspects techniques. Monsieur Robin avait pu partager avec moi, en tant que rapporteur intervenant, sur le constat qui était fait des conséquences de la charge de travail auprès des services techniques. S'agissant du volet financier, avocat, je pense qu'il va y avoir une suite pour la partie finance. S'agissant de ces aspects financiers, la CLEC, c'est un transfert de compétences, avait évalué le coût de la charge des ordures ménagères et de tous les volets déchets à 68 000 euros. Pour rappel, si on a défini que ce coût de net de la compétence déchets coûtait 68 000 euros, c'est 68 000 euros que la commune ne supporte plus, ils sont enlevés chaque année sur l'attribution de compensation. Donc bien évidemment, si on augmente le coût de cette dépense, on vient réduire la contribution aux dotations que l'Interco revient à faire chaque année. Ça aurait été quoi le travail que j'aurais dû faire? Venir augmenter le niveau des dépenses en considérant qu'aujourd'hui, le propos est de dire on n'a pas évalué le coût de la collecte des encombrants. Est-ce qu'on devait venir rajouter de la charge pour venir dire que la commune de La Palue aurait été plus vertueuse que d'autres communes, je ne sais pas si elles l'ont été, mais en tout cas, nous, on a été vertueux. Qu'est-ce qu'on a pris en compte dans les dépenses du volet déchets? On a pris en compte, et je vous renvoie à l'ensemble des tableaux financiers que les services ont et qui ont été transmis à la communauté de communes, on a pris en compte la totalité des agents qui étaient chargés de venir gérer le service déchets. Qui collecte les ordures ménagères, qui collecte les encombrants? On n'a pas dissocié qui était leur part de leur rémunération, on a considéré que c'était la charge totale. Ces agents étaient transférés à la communauté de communes. De la même façon, qu'est-ce qu'on a pris comme dépenses affectées? C'est le coût des véhicules, notamment la benne à ordures ménagères, qu'elles soient utilisées pour les encombrants ou qu'elles soient utilisées pour la collecte des déchets classiques. Et on a pris comme dernière dépense la contribution de la Palue au civum du massif du Jou. On a considéré qu'on transférait bien de droit la totalité de la compétence déchets à la communauté de communes. Dès lors, il n'était pas nécessaire qu'on vienne sur ce montant brut, enfin, sur ces 68 000 restants, quelle était la part qui est liée à la collecte des encombrants. On a fait remonter les chiffres, ils font le lien avec les budgets des années précédentes. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de droit de dire on va venir récupérer et exercer en lieu et place de la communauté de communes une compétence. Ce que aujourd'hui, on vous dit, je vous réaffirme, c'est que le coût de la collecte des encombrants, indépendamment de la réponse de la communauté de communes vous fait, vous avez repris le propos en disant aucune des communes n'a évalué le coût de la collecte des encombrants. On n'avait pas évalué le coût de la collecte des encombrants, on s'est attaché au coût global de la gestion des ordures ménagères, puisqu'on venait transférer la totalité de compétences conformément à la réglementation qui veut que la gestion de tous les déchets basculer au 1er janvier 2017. Aujourd'hui, vous faites le choix de venir exercer en lieu et place de la communauté de communes une partie de ce volet-là avec des incidences financières. Ce que l'on vous dit et que je vous réaffirme, c'est qu'on a transféré l'ensemble des agents qui affectaient ce service-là à la communauté de communes, qu'on a pris toutes les dépenses correspondantes. Il ne me semble pas normal que la communauté de communes n'annonce pas un euro. Vous avez fait ce choix-là, vous l'assumez, ou la communauté de communes vous l'a imposé, mais je ne comprends pas cette décision que vous avez eue de ne pas le prendre en compte dans les aspects financiers, quand dans le même temps vous nous dites que les finances seraient délicates et que ça serait encore une fois ma faute.
Il y a d'autres observations ou questions?
Non, non, moi ce qu'on peut regretter, deux mots, ce qu'on peut regretter, c'est que l'intercommunalité en difficulté est en train d'essayer de refourguer aux communes ce qu'elle a déjà récupéré, voilà, donc on en est là, et que lorsqu'on en a discuté, on était une des rares communes à ne pas vouloir, donc on s'est rangé à la majorité pour récupérer ces encombrants, voilà. Ce qui pose, c'est vrai, un certain nombre de problèmes et de difficultés. Et on peut regretter, donc, l'attitude, moi je le dis, de l'intercommunalité qui, face à des difficultés financières, essaie de nous refourguer tout ce qu'elle peut.
Monsieur Grappin, allez-y.
Ma dernière intervention ce soir. Je veux simplement pour relire à tout le monde ce que vous avez écrit, parce que c'est facile de faire les yeux dans les yeux, de pouvoir dire à un moment donné qui est l'auteur, qui est le fautif, etc. et de ce qui a fait, n'a pas fait. On parle dans votre tribune de la majorité, alors, qui est encore un document où à aucun moment vous n'explicitez ce qu'on fait, mais qui vise à nous répondre. Il ne faut pas qu'on vous écrive trop parce que vous avez passé beaucoup de temps à nous répondre. Votre propos était de dire. Je vous précise que la collecte des encombrants, comme les services des apports d'évaluation, n'avait pas été évaluée dans le transfert des charges pour aucune des communes, je vous apporte des éléments. Qui était en charge des finances du côté de la commune et de la communauté de communes en 2017, M. Grappin. Alors, qui n'a pas fait son travail? Voilà. Moi, à un moment donné, il faut venir valider et dire qui a fait son travail ou qui ne l'a pas fait. Si je ne l'ai pas fait en 2017, vous non plus, vous ne l'avez pas fait. Et vous ne l'avez surtout pas fait en 2021 au moment de valider une décision qui n'est pas raisonnable.
Comme vous l'avez dit, M. Lambertin, c'est très simple. On est cinq communes qui sont allées, même si ça ne vous intéressait pas du tout, qui sont allées dans le même sens, point final.
Ah, si, écoutez, vous n'avez plus le droit de prendre des délibérations, d'accepter sans vous le faire délibérer, mais vous avez tous validé cette question quand elle était vous qui
Et quoi qu'il en soit, vous êtes aussi communautaire, M. Grappin, vous pouvez très bien en parler avec le président et avec les personnes administratives de la CCRMP.
Je ne jouais pas à ça, M. le maire. Vous savez très bien, ça a été évoqué en décision de bureau. Je ne suis pas au bureau et vous faites en sorte que je ne sois pas associé aux travaux de la majorité, quand bien même je les décide. Alors ne me demandez pas d'un côté de ne pas intervenir et ici de venir dire, il vous conviendrait que vous interveniez.
Non, merci. Tournez la page.
Faites un courrier à M. Zilou, il vous expliquera peut-être. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Pareil pour les procurations ? Le groupe Agir Ensemble pour la famille. Qui est contre ? Vote à la majorité, je vous remercie. Fonds de solidarité pour le logement, FSL, participation financière de la commune, appel de fonds 2021. Madame Sylvie Bonifaci.
Bonjour, merci Monsieur le maire. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la participation financière au fonds de solidarité pour le logement, le FSL, pour l'année 2021. Considérant que le fonds de solidarité pour le logement est un outil du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, qui vise à permettre à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières d'accéder à un hébergement et un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Ce plan nécessite un partenariat renforcé entre les institutions, les collectivités territoriales et les organismes dont la vocation est de participer à la mise en œuvre d'une politique de logement en direction des publics défavorisés. Considérant que le FSL met en place sous certaines conditions des aides financières pour le règlement des frais liés à l'accès à un nouveau logement, premier loyer, dépôt de garantie, ouverture des compteurs, assurance d'habitation, frais de déménagement, mobilier de première nécessité, le règlement des dettes locatives ainsi que des factures d'eau, d'énergie ou de téléphone. Ce dispositif finance également des mesures d'accompagnement social liées au logement ou des actions spécifiques favorisant l'accès ou le maintien dans le logement ou la lutte contre la précarité énergétique. Considérant qu'en 2020, les aides liées au FSL se sont réparties de la manière suivante pour les personnes domiciliées sur la palie. Le volet logement, accès et maintien a aidé 8 personnes pour un montant total de 7 550 euros. Le volet impayé énergie a aidé 15 personnes pour un montant total de 3 285 euros. Le volet impayé d'eau a aidé 11 personnes pour un montant total de 1 439 euros. Considérant le courrier du Conseil départemental de Vaucluse en date du 17 juin 2021, reçu en mairie le 24 juin 2021, sollicitant l'Assemblée délibérante de statuer sur une participation au financement du Fonds de solidarité pour le logement pour l'année 2021, les participants à ce fonds sont calculés en fonction du nombre d'habitants. Les participations, pardon, à ce fonds sont calculées en fonction du nombre d'habitants. Le montant préconisé par habitant pour chaque volet est 2. Alors concernant le logement, il est de 0,1068 euros. Pour l'énergie, il est de 0,1602 euros. Pour l'eau, il est de 16,02 euros. Considérant que la population totale de la PALU au 1er janvier 2021 est de 3895 habitants, source INSEE, il sera proposé à l'Assemblée de renouveler pour 2021 la participation au financement du Fonds de solidarité pour le logement, volet logement à hauteur donc de 0,1068 euros par habitant, soit une participation de 415,99 euros et d'indiquer que les crédits sont prévus au budget.
Merci Mme Bonifaci. Y a-t-il des questions ou des observations ? Mme Maillard.
Avec Alexandrine Fraisse, on a toujours été défendrice de ces fonds d'aide, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux personnes en difficulté. Donc c'est bien évidemment qu'on va voter comme vous, comme quoi, vous voyez, on ne fait pas que de l'opposition, on fait aussi du constructif.
Très bien, je vous remercie. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Quatrième délibération, fonds d'aide aux jeunes FAJ, participation financière de la commune, appel de fonds 2021, Madame Sylvie Bonifaci.
Merci. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la participation financière au fonds local d'aide aux jeunes, le FAJ, pour l'année 2021. Vu la délibération du 17 septembre 1992 approuvant l'adhésion de la commune au fonds local d'aide aux jeunes, considérant que le fonds d'aide aux jeunes est une aide en faveur des jeunes en difficulté âgés entre 18 et 25 ans, habitant le département, afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires et de nature à faire face à des besoins urgents. Considérant que le financement du fonds est assuré majoritairement par le département ainsi que par les principaux partenaires, à savoir la Caisse d'allocation familiale et la Mutualité sociale agricole. Considérant que le montant total des aides allouées dans ce cadre par les communes ou groupements de communes s'est élevé à 28 673,35 € en 2020. Considérant que les collectivités locales, groupements et organismes de protection sociale qui le souhaitent peuvent abonder ce dispositif dans le cadre de l'appel de fonds effectué annuellement. Considérant le courrier du Conseil départemental en date du 17 juin 2021 reçu en mairie le 25 juin, sollicitant notre participation financière à ce dispositif d'action sociale en faveur des jeunes du département de Vaucluse, visant à la réalisation de projets de nature à favoriser leur insertion sociale et professionnelle ou permettant de subvenir à des besoins divers, subsistance, mobilité, logement, santé. Considérant que sur la commune de La Palue, 3 jeunes ont bénéficié de cette aide en 2020 pour un montant total de 300 €. Pour rappel, l'aide a concerné 5 jeunes de La Palue en 2019 pour un montant total de 2 145 €. Considérant que la participation financière au FAJ pour les communes de 2000 à 5000 habitants est fixée à 0,10 centimes d'euros par habitant au titre de l'année 2021. Considérant que la population totale de La Palue au 1er janvier 2021 est de 3 895 habitants, il sera proposé à l'Assemblée de renouveler pour l'année 2021 la participation financière de la commune au fonds d'aide aux jeunes fixé à 0,10 centimes d'euros par habitant, soit une participation financière de 389,50 € et d'indiquer que les crédits sont prévus au budget.
Merci, madame Bonifati. Y a-t-il des questions ? Des observations ? Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Cinquième délibération. Vote d'une subvention communale exceptionnelle 2021 au Boxing Club United. Madame Anne-Marie Soutel.
Nous avons reçu un billet de l'association Boxing Club United au mois de juin. Elle était en difficulté après une année extrêmement difficile, aussi bien pour le fonctionnement que pour la formation de ses coachs. Et elle avait toujours des frais fixes qui s'élevaient à une certaine somme et ils avaient beaucoup de mal à remonter la pente. Donc ils nous sollicitent pour une aide exceptionnelle. Et en plus, en raison de la baisse de cotisation, du sponsoring, du don, et tout ça lié à la crise Covid. Donc voilà, je propose à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur l'opportunité et la distribution de cette subvention exceptionnelle à l'association Boxing Club United, d'un montant de 500 €, et d'indiquer que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021.
Merci, Mme Souton. Y a-t-il des questions, des observations, madame?
Je voudrais juste revenir sur les subventions. Quand on en a parlé au mois d'avril, on vous avait dit qu'on trouvait bizarre d'être autant allé rogner sur les subventions aux associations sur une année qui avait été si difficile justement au lycée, pas de loto, pas de tombola, pas d'événements, mais toujours les associations pour une grande quantité ont quand même des charges fixes. Je pense aux Choupinets par exemple, elles n'ont pas eu la subvention et malgré tout elles ont fait le Noël des enfants, elles ont fait le Pâques des enfants, elles ont fait le Carnaval, donc elles ont quand même des frais. Bon, certains avaient la chance d'avoir un petit pécule de côté parce qu'elles avaient bien bossé les années d'avant et ça s'est équilibré. Et là, on le voit sur le boxing, quelqu'un qui touche habituellement 700 € finalement, ben, on avait donné plus que 300, on vient donner 500, on donne plus que ce qu'on avait prévu. Tant mieux, on va les aider et on n'est pas contre l'idée de les aider. Simplement, je voudrais savoir, est-ce que vous avez prévu du coup sur votre budget primitif 2021 un crédit supplémentaire à vos subventions habituelles pour aider les associations qui seraient en difficulté, parce que peut-être que d'autres vont venir aussi taper à la porte en voyant cette délibération, et savoir pourquoi certaines associations se sont vues refuser des aides alors qu'elles avaient demandé. Et je pense notamment aux archers qui ont pu nous parler de leur création et pour des grosses difficultés financières qui traversaient. Alors, je ne peux pas vous poser la question en commission, puisqu'on n'en a pas, mais du coup, je me permets de la poser là.
On n'a pas refusé d'aide. On a, certaines associations ont renoncé spontanément à leur subvention parce qu'elles n'avaient pas de frais et elles n'avaient donc pas de besoin immédiat. Et elles avaient aussi pour certaines une certaine trésorerie importante. Donc elles ont pu pallier à une année blanche. Le Boxing Club, on leur donnait 300 euros de subvention de fonctionnement. On a donné la même chose cette année. Et on leur donnait 400 euros pour la nuit des arts martiaux. Or, cette nuit des arts martiaux n'a pas eu lieu en 2020, donc il n'y avait pas lieu de leur donner. Mais compte tenu qu'ils étaient en difficulté puisqu'ils continuaient à payer leur loyer et qu'ils n'avaient plus beaucoup moins de cotisations, il s'est avéré nécessaire de revenir pour tous. Maintenant, concernant le budget de l'année prochaine, on n'a pas encore discuté, mais bon, on fera ça au coup par coup et au cas par cas surtout. Et bon, moi, je considère qu'une association qui a une grosse trésorerie n'a peut-être pas besoin d'un coup de pouce pour aller faire des repas ou autre. Hein. Je veux dire, c'est
on est bien alors là, je vais te dire, Annie, on est bien d'accord. Mais alors, donc, bien d'accord.
Donc, voilà. Donc, en fait, on étudie...
C'est pas ces associations-là que je pense.
Voilà. On étudie, de toute façon, au cas par cas. Et donc, voilà, moi, j'ai rien d'autre à rajouter.
Merci.
Sachant que le Boxing Club ont des locaux privés, c'est-à-dire qu'ils louent des locaux privés.
Oui, oui, oui.
Ils ont des gens qui ont des frais tous les mois sur la location. Et pour Jean reviens aux archers, parce que vous avez parlé de la ville. Pour les archers, on leur a déjà mis à disposition le terrain. On leur a mis le gymnase, même si c'est l'intercommunalité à dispo aussi. Et on les aidera à la hauteur du convenu. Ils n'ont fait aucune demande de subvention.
C'est bien, au moins comme ça, je pourrais leur répondre le jour où ils vont en parler.
Ils n'ont fait aucune demande de subvention pour l'instant.
On le voit très régulièrement. Merci.
Je passe au vote qui s'abstient. Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine délibération, adhésion au contrat d'assurance groupe mis en place par le CDG 84 pour la couverture des risques statutaires. Monsieur Philippe Bouc.
Bonjour tout le monde. Donc, dans le cadre de l'adhésion au contrat d'assurance statutaire, je vous rappelle que par délibération du 12 mars 2021, la commune a donné mandat au CDG pour la négociation d'un contrat d'assurance groupe. Je vous informe que le marché a été attribué au groupement Sopaxis CNP Assurance par le centre de gestion le 29 juillet 2021. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'adhérer au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le CDG aux conditions suivantes. La durée du contrat est de 4 ans, avec une date d'effet au 1er janvier 2022. Pour les agents CNRACL, le taux est de 5,73%. Il comprend les risques garantis suivants. Accident du travail, maladie professionnelle, décès, maternité, adoption, longue maladie, longue durée, maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours. Pour rappel, le taux actuel est de 7,5% jusqu'au 31 décembre de cette année avec une franchise de 30 jours. Pour les agents CNRACL, soit une cotisation de 43 782,23 €, le taux passera au 1er janvier 2022 à 5,73%. La cotisation sera donc de 33 449,62 €, soit environ 10 000 € d'économie, avec une franchise améliorée puisque portée de 30 jours à 15 jours. Pour les agents Epantec, le taux est de 1,8%. Il comprend les risques garantis suivants. Accident du travail, maladie professionnelle, maternité, adoption, grave maladie, maladie ordinaire sans franchise, sauf 10 jours pour la maladie ordinaire. Pour information, le taux actuel est de 1,10% et donc restera identique sur une cotisation de 689,83 €. D'approuver la convention de gestion annexée à la délibération, la convention définit les conditions dans lesquelles s'établissent entre le CDG et la collectivité les relations relatives à la gestion du contrat d'assurance souscrit par la collectivité.
Merci. Monsieur Bouquet, des questions, des observations. Enfin, je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Septième délibération, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif pour l'année 2020.
Donc c'est la communauté de communes Rhône-Lesse-Provence. Monsieur Philippe Bouc.
Donc le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du sport nous informe notamment les points suivants. La commune de La Palue, qui a une population de 3805 habitants sur un territoire d'une superficie de 17,37 km², a une densité de 219,1 habitants par km². Le SPANC a élaboré en 2016 un marché public de prestations de contrôle qui englobe l'intégralité des dispositifs ANC, les assainissements collectifs du territoire. La nouvelle campagne de contrôle de l'existant a débuté en janvier 2017 et se poursuit en 2021. Le marché est reconductible par période d'un an par tacite reconduction sans que la durée maximale du marché excède 4 ans. Le contrat est arrivé à échéance le 1er août 2020 pour une durée d'un an. Le diagnostic des installations existantes et des nouvelles installations réalisées par la Suez, conformément aux missions confiées par la CCRMP, indique minimum 56 diagnostics d'installations existantes et pour les habitations non référencées initialement ou non contrôlées à défaut de marché, de démarche pardon, fait par le propriétaire. Environ 35 études de conception et 20 contrôles de réalisation des installations neuves. Maximum 12 permanences mensuelles tenues dans les locaux de la CCRFP, au moins une réunion thématique. En cas de refus d'un propriétaire de se conformer à la loi, le SPANC est habilité à appliquer des peines financières fixées à 240 € chaque année jusqu'à la réalisation du contrôle. En 2020, l'évaluation des habitants desservis par le SPANC indique pour la commune de La Palue que le nombre d'assainissements non collectifs en 2020 est de 128 pour un taux moyen d'occupation par logement sur la base de 2013 de 2,39, alors que le nombre moyen d'habitants desservis par l'assainissement non collectif est de 305,90. Le rapport page 17 indique pour la commune de La Palue, donc 172 contrôles au total, dont 8 en 2020. Par niveau de réhabilitation, donc on a 125 installations non conformes, 35 non conformes avec potentiel danger pour la santé des personnes, 4 installations non conformes, soit inexistantes ou non vérifiables, et 8 installations conformes. Par conséquent, sur les contrôles réalisés entre 2009 et 2020, on va apparaître 73% d'installations non conformes, 20% d'installations non conformes avec danger pour la santé des personnes, 2% d'installations non conformes inexistantes ou non vérifiables, et seulement 5% des installations conformes.
Merci, monsieur, pour ce condensé des rapports. Y a-t-il des questions dessus? Je vous rappelle, des observations.
Pas une question, mais. Pas une question, mais une observation. Monsieur Bouc l'a dit, mais sans doute que ça paraît sans doute noyé dans l'ensemble de votre propos. Je veux attirer l'attention de tout le monde sur un des derniers chiffres que vous avez pu évoquer. 20% des installations présentes sur la commune de La Palue sont non conformes avec un danger pour les personnes. On commence à plus rigoler. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 25 installations, si je m'amuse au prorata, et si on raisonne au regard de l'occupation, on est sur aujourd'hui entre 100 et 150 personnes qui sont en danger connu de tous. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on ira plus se rejoindre sur CCRLP, alors je peux écrire au président Silio, bien évidemment. Je vous rappelle que le pouvoir de police appartient à M. le maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait sans doute ça a été fait, mais si on a fait 8 contrôles en 2020, ça veut dire qu'on a moins contrôlé que le nombre total d'installations. C'est-à-dire que celle-là, à minima, on peut imaginer qu'elle soit contrôlée au moins tous les ans. La question, il y en a deux. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est imposé? Et le pouvoir de police vous permet d'aller loin, de faire à la place d'eux et d'envoyer la facture. Ou on agit pour ces gens-là, ou on tire de l'assainissement collectif, mais j'imagine, enfin, on sait où sont installés, tout ça, c'est pas imaginable. Donc à un moment donné, hein, c'est. Plus personne n'est en période électorale, on peut y aller, vous pouvez y aller. Vous n'arriverez pas à leur voir pendant les prochaines années. Et aujourd'hui, 25 installations non conformes avec danger pour la santé des personnes.
Pour répondre à Jean-Michel Papin, le problème, c'est un vrai problème, c'est 25 installations non conformes. Simplement, je vous rappelle que, comme vous l'avez dit, hein, cette année, il y a eu 8 contrôles. L'année dernière, il y en a eu 3 aussi. Le problème, il n'est pas apparu aujourd'hui, il est depuis 2017. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 2017 ? On regarde les chiffres et qu'est-ce qu'on fait ? Donc oui, en effet, c'est une compétence interco. On s'approche de l'interco et on leur demande, eux, d'agir. Ils ont des leviers, il y a notamment la possibilité de laisser des procès-verbaux et de faire dresser, de mandater pour faire dresser des procès-verbaux. Et c'est encore une fois une compétence qui a été transférée à l'interco, même si le maire a le pouvoir de police sur la commune. On a pris, nous, le truc en ayant le rapport il y a quelques temps. C'est pas un problème nouveau.
Quoi qu'il en soit, j'attendais que ça soit acté pour commencer à envoyer les courriers donc le 25, puisque, comme l'a dit judicieusement M. Grappin, j'ai le pouvoir de police et il y aura 25 courriers qui vont partir la semaine prochaine. Pour signifier aux gens qui sont dans l'illégalité par rapport à leur fausse éthique. Voilà. Huitième, on en est où là ?
À la huitième.
Approbation de la convention constitutive d'une entente intercommunale pour la gestion d'un service commun de relais d'assistance maternelle, le RAM, Madame Césarine Sauvadon.
Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur le projet d'une convention constitutive d'une entente intercommunale pour la gestion d'un service commun de relais d'assistants maternels, le RAM. Comme vous le savez, le rôle d'un RAM est d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que sur leurs possibilités d'évolution de carrière. Les communes de Lapalud, La Motte-du-Rhône, Mondragon et Mornas ne possèdent pas de moyens suffisants pour créer chacune un relais assistant maternel. Mais nous souhaitons cependant permettre à notre population de bénéficier d'un tel service. Jusqu'au 31 août 2021, le RAM était porté et géré par la CCRLP, dans le cadre du RESIN, permettant une mutualisation des moyens et par conséquent une participation financière de l'intercommunalité. Après étude, il a été déterminé que le coût moyen basé sur les 3 dernières années pour les deux structures RAM, donc Interco et Bolène, car la commune de Bolène n'adhérait pas au RESIN, était de 71 000 euros par an, avec une participation financière de la CAF sur les deux structures de 28 000 euros par an. Dans le cadre d'un service mutualisé unique avec la ville de Bolène, qui dispose des moyens, le budget prévisionnel serait de 60 000 euros par an, soit une économie d'échelle de 11 000 euros par an. La répartition par commune est proposée au prorata du nombre d'habitants, soit 1,34€ par habitant, en prenant en compte une participation de la CAP équivalente à l'actuelle. La cotisation pour la commune de Lapalud serait de 5,98€ par an. Pour comparaison, en 2019, la cotisation a été de 4,274,50€. Par conséquent, il y aurait une augmentation de 824,20€. Tout en sachant que le calcul s'est basé sur la participation CAP actuelle, d'après la CCRLP, dans le cadre de cette convention d'entente, la prestation CAP pourrait être améliorée et donc baisser notre cotisation. Considérant que la commune de Bolène et les communes précitées ont décidé, dans un esprit d'entraide réciproque et de solidarité, de se rapprocher en vue d'étendre le périmètre d'activité du relais d'assistants maternels existant au territoire de ces dernières et de partager ce service, considérant que la commune de Lapalud entend, avec les autres communes, mettre en place un service commun de relais d'assistants maternels en mutuant les heures moyens. Vu le Code général des collectivités territoriales, il vous est donc proposé d'approuver la convention constitutive d'une entente intercommunale pour la gestion d'un service commun du RAM à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 2 ans.
Y a-t-il des questions, des observations, Madame Amoya Sirios?
Une question, en partie, tu as répondu aux questions que je me posais, puisque dans la convention, on n'avait pas les montants et je cherchais l'intérêt à changer pour un coût qui allait être supérieur. Ouais. Là où je te rejoins moins, c'est C'est sur la future évolution de la CAP. Oui. On avait reçu ensemble la CAP qui avait modifié justement ses barèmes de calcul. Oui. Avant, c'était tant d'euros par temps d'enfants passés sur le temps périscolaire. Donc un gamin qui venait 1h30, c'était 50 centimes de la demi-heure. Il y avait un calcul. Il ne calculait plus comme ça, ce qui nous faisait un travail en moins puisqu'on tombait plus ces chiffres-là. Mm-hmm. Mais c'était une enveloppe allouée. Et il nous avait bien tenu le discours qu'il souhaitait travailler de moins en moins avec les communes, mais de plus en plus avec les EPCI.
Oui.
Là, je suis étonnée que du coup, ça revienne sur la commune, oui. Que ce soit plus sur l'EPCI quand on sait qu'ils vont plus verser quand c'est un EPCI. Oui. Et, alors, est-ce que c'est, pour revenir sur ce qu'a dit M. Lambertin tout à l'heure, Interco qui jette la patate chaude sur la commune parce qu'elle ne veut pas, ou est-ce que vraiment il y a un intérêt à faire ça, parce que pour moi c'est un peu flou, quoi.
Alors Bolen a les moyens, le personnel, parce qu'ils avaient leur service de RAM à eux, et en fait ça a été par rapport à l'économie d'échelle entre les deux RAM réunies que la décision a été prise. Après, il faut savoir qu'avec la CAP, on a été informé de nouvelles directives et ils vont offrir des bonus surtout axés sur la petite enfance. D'accord. Donc je pense que c'est pour ça que l'Interco nous a dit que là, ils sont basés pour le calcul, la prévision sur ce qui était touché actuellement, les deux rames réunies, mais que ça pourrait changer et évoluer en faveur des communes.
Merci.
Je vais finir sur cette délibération. Il y aura une économie de 11 000 euros sur l'intercommunalité. C'est sûr que ça nous coûte 800 euros de plus. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à la majorité. Je vous remercie. Rétrocession amiable des parcelles cadastrées E1583, E1585, E1586 en limite séparative du lotissement le parc des Cigales à la commune, Monsieur Jean-Pierre Lambertin.
Il vous est proposé donc de délibérer sur le projet de rétrocession amiable de parcelles cadastrés, donc, comme a dit le maire, qui sont en limite séparative du lotissement du parc des Cigales. Ces parcelles donc, sont situées entre les limites du lotissement et les habitations du village. Elles forment un espace d'une largeur de 3 mètres. À l'époque, en 2016, lorsque le lotissement a été fait, on s'est aperçu que les lots toucher les maisons derrière le fossé et derrière l'impasse du pâtre en particulier. Et donc, c'était une source éventuelle de conflit. Les gens étaient obligés de passer par les nouvelles habitations pour aller entretenir leurs murs à l'arrière ou réparer leur maison à l'arrière. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été décidé de laisser une bande de 3 mètres, voilà, de façon à ce que d'un côté comme de l'autre, les gens puissent faire l'entretien de chacune de leurs propriétés. Alors, cet espace, donc, il avait été un moment envisagé que chacun récupérerait une partie de chaque parcelle. Ça s'est avéré très complexe. Il y en a, je ne sais pas combien de personnes, d'habitations sont concernées, mais il y en a environ... il y a environ plus de 30, je pense, 30 ou 40. Donc, si chacun récupère, vous voyez, à 3 mètres, la moitié de 3 mètres de chaque côté, du côté du fossé, du côté du lotissement, ça paraissait très compliqué. Donc, ce qui est proposé, c'est que la commune récupère cet espace de 3 mètres, étant entendu que FDI Promotion ont fait de l'entretien, donc ont payé jusqu'à présent de l'entretien. Ils étaient prêts même à faire certains aménagements sur ces 3 mètres. On a fait faire tout ce qui était possible. Mais en concertation avec nos services de la voirie, ils ont souhaité qu'il reste sur ces 3 mètres, il reste plutôt de la terre de façon à pouvoir passer éventuellement la tondeuse. Voilà. Donc voilà ce qui est proposé. Ensuite, il y avait un petit bout de parcelle le long de la route départementale qui n'est plus départementale. C'est là où il y a l'abribus, donc il faut le régulariser, ça aussi, puisque l'abribus a été construit sur une parcelle qui n'appartient pas à la commune, c'est une parcelle privée. Donc voilà ce qui vous est proposé, donc d'approuver le projet de cession amiable à l'euro symbolique, étant entendu que ce sera le notaire de FDI qui opérera là-dessus et qui prendra tous les frais d'acte seront pris à la charge de FDI promotion et pas par la commune. Voilà ce qui vous est proposé comme délibération.
Y a-t-il des questions, des observations, M. Grappin ?
Tout d'abord, rassurer les quelques personnes qui ont pu devoir déambuler pendant un ou deux jours dans le secteur, parce que je vous avoue qu'il faut que vous y allez pour voir. La partie qui vise l'abribus ne sera pas dans mes propos, on n'avait pas de question. S'agissant des deux autres parcelles, alors, comme il est stipulé dans votre délibération que c'est une voie privée ouverte à la circulation publique, j'ai essayé de circuler.
Oui, mais il y a un portillon.
Ça, c'est... Oui. L'argumentaire qui est pris pour justifier la procédure suivie, c'est que la voie privée soit ouverte à la circulation. Donc, par définition, ça sous-entend qu'on peut y circuler.
Elle est ouverte à la circulation, M. Grappin, tout de suite, je vous réponds. Des riverains, lorsqu'ils veulent accéder, en accord avec eux, il a été mis un portillon pour pas qu'il y ait de déambulation complète là-dessus et que ce soit uniquement les riverains de part et d'autre qui puissent accéder là et aller à leur parcelle. Maintenant, si vous voulez qu'on leur enlève le portillon, on l'enlèvera.
Non, mais je ne défendez pas un processus réglementaire que vous soumettez à approbation si on n'accepte pas les règles, si je peux finir mon propos. Donc, moi, j'ai essayé de... Puisque vous visez la procédure L230-318-3, code de l'urbanisme, stipulant qu'avec l'accord de tous les propriétaires. Donc en l'occurrence, c'est un seul propriétaire, hein, puisque c'est FDI, et c'est le seul qui a intérêt à se prononcer. Et on comprend bien, lui, il a plutôt intérêt à donner le bébé à quelqu'un d'autre, puisque pour le coup, c'est plus lui qui assurera l'entretien, mais c'est la commune de La Palme. Sur la base des surfaces, un coût, etc., M. Robin, jusqu'à souvent, enfin, vous avez gagné encore 800 mètres carrés pour vos services, une ou deux fois par an, on prend 2000 euros. Voilà. On est dans la logique du contexte sans qu'on la comprenne. Donc moi, j'ai essayé, enfin, si par définition la voie privée n'est pas ouverte à la circulation, le dispositif qui est pas bon. Voilà. Après, derrière, c'est, on veut en faire quoi? Si c'est pour que la commune le récupère et qu'on y laisse des portails, c'est-à-dire que, enfin, j'imagine pas que l'ensemble des propriétaires que vous avez cités, enfin, on a 13 propriétaires, côté rue des Fossés ou côté impasse du Pâtre, on a 13 propriétaires. Est-ce que demain, ils acceptent le fait que bon, des gens viennent déambuler derrière chez eux, au pied de leur fenêtre, etc. J'imagine que non. Donc, on se retrouverait demain dans le même dispositif qui fait qu'on laisserait des portails, voire un endroit, il y en a une, c'est même une impasse, on n'a aucun intérêt à y aller, c'est même enfin, derrière chez M. Bouc, on ne peut pas y aller, il y a une haie. Donc, demain, la commune va venir récupérer du foncier. Pour qu'on ne change pas les règles, c'est-à-dire qu'on garde, toujours des portails. Simplement, c'est la commune qui va assurer le traitement, et je ne vois pas l'intérêt. Enfin, je comprends que ça peut être une procédure compliquée. Est-ce que demain, si on dit à FDI, vous occupez de générer, vous faites les divisions, le linéaire est donné à chacun gratuitement de l'ensemble des propriétaires? Ils sont tous devenus copropriétaires, ils ont les clés, ils y vont quand ils veulent. Je considère que ce n'est pas à la commune d'assurer de l'entretien pour satisfaire un seul qui est FDI. Le reste du temps, ça ne changera pas les règles. Ou alors, on veut ouvrir à tout le monde, mais en quel cas, on ne sera jamais sur une voie privée ouverte à la circulation. Donc, je ne comprends pas. Enfin,
oui, M. Grappin, il ne s'agit pas donc, de satisfaire FDI, il s'agit de satisfaire nos administrés qui, de chaque côté donc, de ces 3 mètres, des deux parties, donc, ont besoin d'aller entretenir leur habitation et ont besoin de passer pour y aller.
Et aujourd'hui que c'est FDI qui est propriétaire, ils le font de la même façon. Voilà. Et on dit simplement FDI, pas de
oui,
soucis,
mais vous savez,
on le prend et on va l'entretenir.
Vous savez très bien comment ça se passait. FDI, il y avait les appels à la mairie, on cherchait la clé. On appelait FDI à Montpellier, il fallait que quelqu'un vienne pour ouvrir, on n'ouvrait jamais quand il fallait, etc. Donc je pense que c'est rendre service à nos administrés, je crois qu'on est là pour ça aussi, la commune, que de prendre ça à la commune. Il y a bien d'autres choses encore qu'on pourrait ne pas prendre en charge et faire certaines économies.
Voilà.
En tous les cas, vous n'êtes pas obligé de voter pour.
Ah, on ne votera pas pour, et monsieur,
voilà.
Vous pouvez voter. Vous avez gagné 7 jours de travail, 800
euros. Vous pouvez voter contre. Allez, terminé.
C'est souvent quand même que j'ai vu là-bas des employés communaux, là, pas du travail. Je suis désolé.
Non, mais là, on l'écrit pour. Enfin,
non, mais voilà, quoi qu'il en soit. Mais quand les administrés appelaient la mairie, comme disait monsieur Lambertin. À l'époque, il y avait des élus qui disaient oui et qui envoyaient les employés communaux. Maintenant, c'est juste une régularisation. Et puis voilà, c'est tout.
Oui, mais c'est une régularisation qui coûte 5 jours de travail à nos agents et 2000 euros par an. Voilà, sur un mandat, c'est 10 000 euros. Et après, on va chipoter pour ne pas donner 500 euros.
Ça m'étonnerait. Puisque...
Je ne crois pas qu'ils iront travailler toutes les semaines pour aller
couper les arbres. Ils vont y aller une fois par an.
On vous dira combien a coûté l'entretien. Combien il coûte, là. Oui.
Je passe au vote. Donc, qui s'abstient ?
S'il vous plaît, Madame Presse, ne prend pas part au vote.
Qui s'abstient ? Qui est contre ?
Réveille-toi.
Vote à la majorité, je vous remercie. Monsieur Coup, qui ne prend pas part au vote.
Moi non plus, du coup.
Ah. Et monsieur Garin, non plus, monsieur Lambertin ?
Oui, je ne prends pas part s'il faut.
Mais pour moi, c'est vraiment.
Enfin, c'est Gérard qui devait le présenter, il n'est pas là.
C'est bon, vous avez marqué ? Motion de soutien à la filière lavandicole. L'huile essentielle de lavande et lavandin, aromathérapie, utilisée depuis l'Antiquité, pourrait entrer d'ici 2025 dans la catégorie des produits chimiques et toxiques fixés par une nouvelle législation, le pacte vert de la Commission européenne, à cause des molécules qui la composent. Si cette nouvelle réglementation ne prévoit pas directement d'interdire la lavande, mais plutôt ses molécules, ce sera pour la filière lavandicole une véritable catastrophe. Car si légalement il n'y a pas d'interdiction d'utiliser ces produits naturels, aucun fabricant de cosmétiques, de parfumerie ou de produits alimentaires ne les mettra dans ses recettes, ouvrant ainsi de facto la porte à l'utilisation des produits et parfums de synthèse. De plus, les exploitations agricoles, plusieurs négociants, coopératives en huile essentielle ont aussi implanté leur entreprise dans les zones de production ou à proximité, favorisant ainsi l'emploi local. Les projets de l'Union européenne porteraient un funeste coup au tissu économique local, notamment au domaine apical, touristique et commercial. Les champs de lavande sont considérés comme l'or bleu de la région et notamment de notre département de Vaucluse. Il vous est proposé de demander au gouvernement et aux parlementaires français et européens de s'opposer avec détermination à cette législation, le pacte vert mis en place par la Commission européenne qui interdirait l'utilisation de certaines molécules composant l'huile essentielle de lavandin et de lavande.
Bon.
Y a-t-il des questions, des observations sur cette motion ? Aucune. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Délégation d'attribution de M. Le Meilleur, compte rendu des décisions. Y a-t-il des questions là-dessus ? Madame Salamagnan.
Juste une petite question. Sur la décision 2021-086, approbation de la convention d'utilisation de l'espace de loisirs des Girards entre la commune de la Vallue, l'amicale des pêcheurs du canton de Bolène-la-Vallue, Yachting Club de la Vallue, Mini Flotte de la Vallue, Bulle Évasion, en date du 21 juillet 2021. Je suis surprise de ne pas avoir apparaître mon Bibase.
Parce que ce n'est pas une association de Bibase, c'est un poste interne.
D'accord.
Avant de. Clôturer la séance avec deux, trois petites tables de la semaine du jour.
Monsieur
Rabin,
merci,
monsieur
le maire. Juste, je vous fais une synthèse de trois décisions que vous avez pu prendre, qui ont trait de près ou de loin, ou de près, la sécurité. Pour mémoire, une extension de la vidéosurveillance de caméras supplémentaires qui sont installées sur la partie nord de la commune. Un contrat que vous avez vu passer avec qui vient préciser l'implication mutuelle ou complémentaire de la police municipale, et je salue le chef de la police qui est sur la sécurité de la salle, et sur le même volet, sur un dispositif de participation citoyenne. Vous me permettrez de regretter que, s'agissant de ce protocole participation citoyenne, décision récente de votre part, puisqu'elle est du 14 septembre, ça soit passé un petit peu en catimini au travers d'une décision et que ça ne vienne pas le débat ici, parce qu'il semble que ça intéresse au plus près, s'agissant de la sécurité des civilités, on y mettra tous les curseurs que vous voulez. Madame Botessoto, j'ai le droit sur les réseaux sociaux de m'exprimer pour parler de la sécurité et de vous dire que je considère qu'aujourd'hui la priorité de nos agents de police municipale n'est pas de mettre des papillons pour avertir qu'on est en zone bleue, mais que nous, au travers des échanges que je peux avoir en prenant un peu dans la palue, que ce soit les problématiques de vitesse, des rodéos, que tout le monde, je pense, entend. Je vous laisse voir les quelques marques de freinage importantes qu'il y a sur la rue des Vigneaux. Des voitures qui, pas très loin d'ici, aux abords des parkings, sont garées sur les trottoirs. Alors, certains vont me dire, c'était le cas avant, c'est aussi le cas sans doute maintenant, et peut-être ça se multiplie. Je crois que tout le monde a pu voir des comportements où on se retrouve avec de la chicha ou autre sur une place qui n'est pas très loin d'ici. On a un sentiment qu'il y a quelque chose qui passe, qui l'attend, qui n'est pas normal. Vous le prenez en compte au travers de ces décisions-là. Encore une fois, je regrette que ça se fasse un petit peu sous le pied caché, même s'il va falloir aller en réunion publique, il va falloir désigner des référents. Mais je pense qu'il y a des questions qui sont majeures à l'échelle d'une commune, ben surtout ce 14 septembre, dont vous n'aviez pas une urgence, hein, et qu'on aurait pu en discuter ce soir, ça ne soit pas évoqué, parce que c'est majeur, et que si nous, on n'en parle pas ce soir, personne n'en parlera en attendant que...
Bon, ouais. Il y a un micro pour M. Morin.
Non, mais ça pourra être pas aussi.
J'en reviens aux zones bleues, Monsieur Grappin. La zone bleue, on a envoyé ça tout simplement parce que c'est les commerçants qui nous ont dit que les gens se garaient intempestivement sur les places et restaient pas une heure et demie alors qu'on avait rallongé le temps et restaient beaucoup plus longtemps, tout simplement. Et ce que c'est très bien ce qu'a dit Monsieur Morel par rapport au mail. Et je vous invite à venir en mairie et vous montrer tous les mails qui ont été faits à la gendarmerie et les lettres qui ont été faites au préfet.
Voilà. Et les réponses que j'ai eues là-dessus. Et on a un gros problème, c'est vrai, hein, sur la place à côté. C'est pas d'hier, ça fait 3 mois que ça dure. Ça fait 3 mois que ça dure et ça fait 3 mois. Alors le problème, c'est sûr que moi, à mon niveau, j'essaye de faire le plus possible. Mais le gros problème, c'est que si la gendarmerie n'intervient pas, hélas, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors, ils nous retoquent en nous disant que juste avant la fin du confinement, ils avaient récupéré une moto et qu'ils l'ont mise à la fourrière. Ils nous disent aussi qu'ils avaient verbalisé, mais depuis 3 mois, on leur signale toutes les semaines, le responsable de la police leur signale toutes les semaines comme quoi il y a des rodéos, il y a des bruits, il y a du klaxon. Et le gros problème, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, tout simplement.
Juste pour être clair et que mon intention ne soit pas déformée, il n'est pas ici de mon propos de critiquer ni la police municipale, la gendarmerie. Moi, je fais le constat que certains font et je ne veux pas faire d'amalgame et monter dans les décibels voilà. Là. Ce que j'ai simplement pu dire, et je ne remets pas en cause ce que vous faites sur la zone bleue, on a pu échanger avec les Articom, avec les commerçants, effectivement, quand un camion se gare pendant très longtemps sur un commerce, ce n'est pas acceptable au regard de ce qui se passe. J'ai simplement voulu dire, j'ai le double discours, là, je vous avoue, je manque un peu de souplesse et je ne sais pas faire les grands écarts. Quand d'un côté, je m'exprime en disant que ce n'est pas la priorité, on me dit qu'il faut que j'utilise mon carnet d'adresse, etc. Mais en même temps, on n'est pas associé à ces discussions majeures. On ne va pas revenir, j'entends les propos de M. Morel, je m'en félicite. À un moment donné, je ne remets pas en cause votre travail, je ne remets pas en cause le nombre de mails que vous envoyez simplement. Je dis aujourd'hui, c'est un sujet majeur. On doit pouvoir en discuter là. Vous faites le choix qu'on n'en discute pas, vous prenez une décision et il faut qu'on aimerait qu'on aille voir dans votre bureau, etc. Il me semble qu'on a le droit d'en discuter là, c'est vraiment un problématique majeur. Si vous voulez vous aussi faire remonter le message, si j'en parle pas ce soir, personne ne parle de la sécurité, la presse n'en parlera pas demain. C'est-à-dire que dans le même temps, on ne peut pas tenir du discours en disant effectivement il se passe telle chose et puis on n'en parle pas, il y a une petite décision qui est prise, qui est envoyée au préfet, qui met un temps et puis on fera une réunion publique. À un moment donné, ces sujets majeurs, je crois qu'on a le droit d'en parler, il faut avoir le courage d'en parler. C'est sans remettre en cause le travail que fait la police municipale, la gendarmerie. Vous avez mobilisé un troisième policier, vous aviez promis un quatrième, je connais vos contraintes, on les connaît. Comment on fait, comment on agit? Je crois qu'on avait le droit d'en débattre, on n'en débattra pas ce soir, on en débattra d'autres moments si on est invité, mais on y participera bien volontiers.
Et quoi qu'il en soit, on est plus couvert puisque les décisions, normalement, dans chaque conseil municipal, ça passait directement, il n'y avait même pas besoin d'en parler. Je vous donne le droit à chaque fois, depuis qu'on est élu, je vous donne le droit à répondre à toutes les questions. Ça s'appelle de la démocratie.
Mais oui, mais sinon vous savez que ça prend la forme d'autres formes qui vont être plus lourdes, etc. Mais bien évidemment que je salue votre aspect de transparence, on n'en oublie pas moi non plus qu'on n'est pas associé à des commissions, etc. Que la commission Covid existe et je me félicite d'en participer, etc. À un moment donné, je pense que quand chaque fois on monte au créneau et qu'on vous dit qu'on n'est pas content et que je monte un peu fort, il y a des choses qu'on est capable de dire en commission qu'on ne viendra pas redire là à partir du moment où on a les éléments. Ce n'est pas normal, par exemple, que sur le volet RAM, si on sait en commission qu'on a les éléments financiers, vous ne nous les donnez pas là. Si on titille pas de temps en temps, on n'a pas les infos. Voilà, c'est le jeu de la démocratie ou pas.
Bien. Je vous donne quelques dates. Donc, on est en pleine semaine bleue, donc jusqu'au 3 octobre. Du 9 au 15 octobre, il y aura le salon de peinture. Remise de la médaille de la ville à M. Horus le 22 octobre. Le 29 octobre, c'est la cérémonie des noces. L'exposition du 11 novembre aura lieu du 10 au 14. Le 11 novembre, cérémonie donc du 11 novembre, bien entendu. Trophée des méritants aura lieu le 19 novembre à 18h30. Le Téléthon cette année aura lieu le 3 décembre. Le repas du CCAS le 5 décembre. Ainsi que la commémoration de la Thierry. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vous souhaite à tous
une
bonne soirée. Pensez à signer la liste.
Le 30 octobre,
c'est Octobre-Rose. Mais les animations auront lieu le 30 octobre, après-midi.
Bon. Allez.
Oui. Allô.
Appelle-moi Alex, s'il te plaît.
Daniel.
Appelle-moi Alex, signorine.
Alex Noël.
Thank you.